Alors fin août, donc à York, il y avait une autre réunion, alors qu'on qualifie d'internationale. Donc le thème portait sur sport et christianisme. Donc avec toujours une présence massive d'Américains, d'Australiens, d'Irlandais. Donc là, j'ai même pas concouru. Je suis en phase d'entraînement parce que. Alors, ce que je vous propose, c'est plus des pistes hein, qui me restent un peu, en sachant que c'est des pistes qui sont traduites, hein, et donc qui sont des manières un petit peu de mettre au milieu de la table des dimensions qui pourront éventuellement être reprises. Alors, l'un des thèmes hein, qui intervenait, c'était le questionnement de finalement qu'est-ce que c'est que l'excellence sportive, à quoi ça sert finalement d'être excellent? Avec un autre versant qui est d'intégrer la notion de fragilité heureuse, notamment lorsqu'on ne parle plus forcément de sport, et là je fais un clin d'œil à Philippe, peut-être il sera sensible hein, à ce clin d'œil et puis à ce que je vais dire, c'est la notion d'activité physique adaptée, hein, qui fait qu'effectivement ça peut élargir hein, le style de population à laquelle on va s'adresser, c'est-à-dire qu'on peut effectivement développer des activités à finalité sportive. Donc à de nombreux publics, mais encore faut-il les adapter à ce qu'on appelle dans certains langages les besoins spécifiques hein, des personnes qui sont en face de nous. Alors autre thème bon, qui était abordé, c'est l'idée que la pratique sportive ou activité physique adaptée permet de s'intéresser à la façon dont une personne rentre en contact avec son corps défendant, et donc à plusieurs reprises ça a été mis en avant. Alors il y a différents termes qui ont été utilisés avec le trou noir de la psyché, avec les replis de l'intériorité, avec le transcendant, avec le divin, avec d'autres dimensions, et de mettre l'accent sur le fait que. Alors peut-être ça fait un lien avec ce que tu disais tout à l'heure, bon je fais une résonance, hein, tu vois qu'effectivement les adolescents qu'on peut accueillir ne viennent pas forcément pour quelque part accéder au transcendant et au divin, mais qu'il peut y avoir comme ça des médiateurs culturels. Qui font que certains, à leur corps défendant, vont pouvoir contacter cette dimension. Tout à l'heure, j'ai entendu parler de la notion d'appel. Hein, j'ai bien entendu ce mot tout à l'heure, son prénom.
Pierre.
Hein, Pierre, hein, quand tu as parlé d'appel, hein, pour moi, ça reprend cette idée de à son corps défendant. Hein, ça prévient pas forcément.
Voilà.
C'est moi qui suis trop.
Tu veux aller à 3?
Vas-y, passe celle-là. Alors, autre thématique bon, qui pourrait peut-être nous intéresser, c'est considérer que dans les cultures sportives, souvent l'une des finalités qui est mise en avant par les entraîneurs, par les dirigeants, c'est la nécessité d'intégrer les normes, les vertus, les symboles du culte de l'excellence. Mais ça nous renvoie à l'idée que peut-être. Si l'intégration dans une culture sportive n'était que ça, peut-être le développement de la personne dans sa globalité ne serait pas forcément hein, mise en avant. D'où la nécessité de s'intéresser à finalement quel est l'esprit de la compétition, et puis quel est peut-être l'au-delà de l'esprit de compétition. Qu'est-ce que ça signifie d'être toujours à la poursuite de l'excellence? Avec une question qui est à quoi reconnaît-on qu'on est quelqu'un? Alors on peut considérer qu'on est quelqu'un à travers une performance, mais de s'apercevoir que ce n'est pas forcément le but ultime, c'est une étape pour, hein, quelque part, aller ailleurs. Alors derrière ce qui est mis ici, c'est une autre thématique. Bon, sur lequel on a pu échanger, et peut-être on reprendra cette idée, c'est est-ce que l'idée de fraternité naît dans la rivalité plutôt que dans le consensus? Et est-ce que l'esprit compétitif n'est pas une manière, quelque part, de se rapprocher un petit peu de cette dimension fraternelle que les rugbymen connaissent bien? Entre autres, hein, il n'y a pas que, mais. Ouais, mon ami François me dit, du temps où il n'y avait pas de vidéo.
Merci, Gilles. Il y a les mémoires intérieures. Hein.
Ouais,
vous
avez les mémoires et vous battrez à la pause. Voilà.
Voilà.
La faute de Gilles. La vidéo le prouvera.
Voilà, donc comment la notion de rivalité finalement peut être perçue dans certains contextes comme une source optimiste hein, pour aborder la notion de fraternité.
En fait, fabriquer de la rivalité pour favoriser l'uniformité, ça veut dire ça.
Alors, alors c'est effectivement une.
L'uniformité.
Alors, l'idée bon, que j'ai traduite, hein, parce que c'est effectivement une dimension qui au départ me paraissait un peu complexe, qui me paraît toujours complexe, c'est l'idée que la culture sportive peut avoir une mission entre guillemets politique sur le fait que la culture sportive peut être là pour ordonner et structurer une société et que l'idée de rivalité va favoriser l'uniformité. L'uniformité, ça veut dire que tout le monde ne gagne pas, tout le monde ne perd pas, mais que le gagnant, il est à sa place, il est reconnu en tant que tel. Le perdant, il est à sa place, il est reconnu en tant que tel. Et chacun va avoir une étiquette qui fait que tout au long d'une vie sportive, il y a des règles qui sont quelque part uniformes. On a le même, hein, les mêmes caractéristiques. Et cette, Mais en même temps, je l'ai mis en exergue sur ce paradoxe hein, qui fait que la rivalité qui est faite pour différencier peut aussi quelque part conduire à une recherche d'uniformité qui n'est pas forcément à percevoir comme négative, mais aussi comme une manière voilà, de rassembler les. Oui.
Moi, je pense au concept de stabilité.
Stabilité, oui. Alors, stabilité, on peut aussi l'utiliser, c'est un peu ça. C'est comment la société peut être stable grâce à des activités culturelles, à médiation corporelle. C'est-à-dire, la rivalité, pour utiliser un terme. La compétition ne diabolise pas, je peux dire ça, mais la compétition peut favoriser l'émergence de symboles communs. Voilà, c'est un peu dans cette. Ah, les Anglais à 22h sont subtils. Hein. Pas les Anglais. Alors, on a été amené à parler de la notion de vertu. Alors, dans notre monde laïque, ici en France, la notion de vertu n'est pas toujours évidente à mettre en avant. Là, je vous en cite quelques-unes. Hein. Bon, on va juste les nommer et puis elles seront reprécisées hein, sur le site. Donc, une manière de définir finalement qu'est-ce qu'on appellerait le courage, où le courage finalement suscite la notion de volonté pour atteindre les buts. Hein, c'est-à-dire que l'effort fait partie quelque part du chemin, hein, pour parler, comme j'ai dit tout à l'heure, à contre-courant, hein, ça nécessite de l'effort. Et puis, atteindre ses buts, c'est aussi rencontrer des obstacles qui viennent de l'extérieur et qui viennent souvent de l'intérieur. Pierre nous a parlé que hein, l'un des plus grands adversaires qu'on avait, c'était soi-même.
Et la balle.
Ah oui, j'allais dire et la balle, mais voilà. Donc, sur obstacle interne et externe, hein, voilà, c'était pour faire le lien avec. Alors voilà, des manières de reprendre ces mots hein, qui peuvent paraître surannés dans notre peut-être jargon francophone, de bravoure, de persévérance, d'authenticité et de vitalité. Alors, autre mot qui a été utilisé, c'est celui d'amour compassionnel. Alors, j'entends déjà François Hochepé qui me dit pour les professeurs de PS, c'est difficile à placer dans les écrits 1, écrits 2 de certification. Néanmoins, dans d'autres cultures, l'amour compassionnel est pris en compte. Alors, en utilisant des mots qui sont peut-être plus proches hein, d'un discours pédagogique, qui tournent autour de la notion d'altruisme, d'empathie, de care et de bienveillance. Hein, le care en voyant à l'idée de prendre soin des autres. Et ça touche l'un des paradoxes que l'on peut rencontrer avec les entraîneurs. Première idée, c'est que l'insécurité affective est antagoniste avec l'amour compassionnel authentique. L'insécurité affective convoque une hyperactivité de l'amour compassionnel pervers, sous-entendu. Vous connaissez peut-être certains entraîneurs qui ne sont pas là forcément pour favoriser la promotion de la personne, mais développer hein, d'autres comportements pervers. Donc ça, c'est pas une nouveauté, mais hein, c'est aussi à mettre en avant. Et que, à l'opposé, on peut considérer que l'entraîneur a peut-être aussi à se poser des questions sur la nécessité pour lui d'être au clair sur qu'est-ce qui l'anime hein, dans l'accompagnement des autres, avec cette idée que, bah, quelque part, lorsque la personne, l'entraîneur, va être au clair avec lui-même, hein, ce qui s'appellerait ici la sécurité affective, va favoriser des comportements altruistes et prosociaux qui, là, ne sont plus forcément pervers, mais sont vraiment au service de la, hein, de la personne. En tout cas, c'est l'une des thématiques sur l'idée que nous-mêmes, comme entraîneurs, on peut être porteur de deux facettes. Hein, une facette authentique, c'est-à-dire vraiment, on est altruiste. Et puis, il y a aussi peut-être une autre dimension. Alors, je ne sais pas si on peut parler d'égocentrique ou d'égo surdimensionné, où on oublie finalement que notre accompagnement, ce n'est pas forcément précéder celui que l'on entraîne. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément être impatient, mais c'est peut-être à ses côtés et essayer d'être à son rythme et de respecter le chemin qu'il va prendre, qui n'est pas forcément hein, celui qu'on avait prévu. L'idée de justice, notamment sur la dimension que, par rapport à la phrase du milieu, que le sens de l'équité peut s'apprendre essentiellement grâce à des sentiments d'injustice. Et on peut considérer que la pratique sportive a le don, hein, quelque part, de créer hein, ce sentiment d'injustice. Alors ça, c'est une vision optimiste hein, peut-être de la vie sportive, mais de considérer que quelqu'un qui n'aurait jamais connu l'injustice, hein, c'est une hypothèse que je vous propose, n'a peut-être pas forcément un sens de l'équité totale. Et je pense que si vous voyez vous-même dans la façon dont vous accompagnez les autres, hein, combien le sentiment d'injustice peut être un moteur hein, dans la promotion des personnes. Sur le thème du leadership, de repérer, et là ça fait le lien avec ce qu'on appellerait les capitaines d'équipe ou les entraîneurs, que on va dire le leadership qui serait le plus pertinent, c'est pas forcément celui qui a la trivialité et qui a la plus grande gueule, mais peut-être celui qui est porteur d'un silence qui justement pose. Hein, pose les choses.
C'est... Oui. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Combien d'éducateurs, je pense à une enseignante, les enfants de CE2, ils rentrent en classe, un peu énervés, mais sans plus. La première chose qu'elle a fait, c'est de gueuler. Alors que j'ai le souvenir inverse, 250 collégiens, pas trop croisés de religion, pas d'une vie, on commence par leur dire, vous avez écouté, c'est bien. Et ça a marché, effectivement. Je dirais, c'est une image, mais c'est fondamental. Le silence, c'est la meilleure façon de sortir.
Et François, durant ses années de rugby, a beaucoup appris du regard silencieux des piliers qu'il avait en face de lui.
À qui, à une certaine époque, ne nous rattrapait jamais.
Mais comme il ne te donnait pas la balle. Alors le mot tempérance, hein, qui est fort utilisé dans la langue anglophone, peut-être un peu moins dans la... En tout cas, j'entends peu dans la langue francophone, reprend des idées. Alors, j'ai mis en gras l'idée de pardon, on en a parlé tout à l'heure. Hein, l'idée de pardon est une notion que je n'ai pas l'impression d'avoir comprise totalement encore. Hein, mais je suis encore jeune dans la vie, donc j'ai encore le temps de comprendre ce que peut dire le pardon. Mais en tout cas, cette rencontre m'a permis de retrouver des mots hein, que je n'avais pas forcément l'occasion d'utiliser. Alors sur le pardon, on va passer à la suite sur l'idée que... alors c'est des hypothèses que je vous propose, mais de considérer que le pardon, ça peut vous paraître évident, mais bon, j'avais envie de le partager, que le pardon peut favoriser notre croissance, le non-pardon va entraver notre croissance, et que le pardon est une voie d'accès à une réconciliation intérieure, dans l'idée que la place du pardon peut être hein, dans l'accompagnement des personnes que l'on a en charge est peut-être une notion à mettre en exergue, même si dans la culture sportive ça ne fait pas partie forcément du vocabulaire on va dire incarné. Mais en tout cas bon, J'ai entendu plusieurs fois des interventions sur ce thème, donc ça me paraissait intéressant pour moi de...
C'était les anglo-saxons qui avaient ce mot aussi.
Oui, ouais. Oui, en fait, là à York, donc, il n'y avait que des anglo-saxons.
Parce que les latins, c'est Vandel.
D'accord.
D'où la notion d'être à contre-courant.
D'accord. Alors le pardon est une force qui guérit, le non-pardon est une force qui implose. Hein, c'est-à-dire l'idée que, quelquefois, quand la personne qui est en face de nous se sent un peu à côté de ses pompes, ce n'est pas simplement une question physiologique, mais il y a peut-être aussi une autre dimension intérieure hein, qui peut être aidée. Alors la thématique hein, bon, qui a structuré aussi les différentes journées, c'est comment vivre une vie sportive ayant du sens et valant la peine d'être vécue, sous-entendu au-delà de la performance, au-delà des honneurs qui font qu'on est reconnu extérieurement. Et donc derrière, vous avez la question du lien entre la réconciliation intérieure et puis la reconnaissance, hein, la reconnaissance extérieure. Alors, il a été question, alors c'était pas prévu, mais c'est un petit clin d'œil à René, alors peut-être par rapport à ce qu'il disait. Hein, alors il y avait des termes qui intervenaient sur... ce que les collègues appelaient le pèlerinage écologique, hein, c'est-à-dire d'associer hein, la dimension écologique, c'est-à-dire ce qu'on appelle, nous, les activités de pleine nature, hein, avec une recherche d'intériorité. En sachant que les personnes ne viennent pas forcément pour la recherche d'intériorité, mais ce contact avec la nature, donc à travers le canoë ou à travers d'autres activités, ou le VTT et tous ces aspects-là, reprennent un peu cette idée, c'est-à-dire que le voyage... on va dire, dans une contrée de pleine nature, peut favoriser le voyage intérieur et puis peut, quelque part, accompagner une odyssée spirituelle. Hein, et donc, dans ce que disait René, bon, ma résonance, c'est effectivement l'idée que les ados qu'on peut accompagner, effectivement, n'accrochent pas simplement sur l'idée d'odyssée spirituelle, hein, c'est pas ça qui vont les faire venir, mais que l'activité de pleine nature peut être un médiateur. Non, intéressant sur cette... Alors ça reprend un petit peu ce que j'appellerais la symphonie du peloton. Ah, vous voyez, dans la symphonie du peloton, des fois, il y en a qui se cassent la gueule. Ouais. Donc, un autre thème hein, qui est abordé, qui était un peu présent dans ce que j'avais appelé la fragilité heureuse, c'est l'idée que dans notre accompagnement ou dans ce que les personnes peuvent vivre, il y a aussi ce moment de l'avant et de l'après. C'est-à-dire l'avant où ma quête, c'est la quête de l'excellence, et puis un autre moment où la personne sent que son excellence a tendance à... Alors son excellence, c'est pas dans le sens... Je ne m'adresse pas à Pascal. Hein, hein, mais c'est dans le sens où, par exemple, la performance décroît. On
c'est
prend de l'âge.
De dire.
En tout cas, de considérer que la fracture dans une vie sportive, hein, la fracture étant à entendre dans plusieurs sens, peut être un événement effectivement traumatisant et douloureux, mais peut être aussi un passage qui fait que la personne peut être transfigurée hein, par la suite. Et donc, bon, les thèmes qui étaient abordés, c'est peut-être d'interroger, alors l'articulation, c'est des jeux de mots entre individu et personne, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'une personne, c'est pas simplement celle qui a été excellente à un moment de sa vie, mais qui aussi a vécu des moments où la fragilité, elle l'a rencontrée.
Le Christ nous dit un peu ce rapport, il dit « Sachez-le moi que je suis doux et humble de cœur ». Peut-être ça l'excellence. Donc, même l'excellence, bon, il y a toujours des blessures. Hein. Il y a même des grands champions qui passent plus de temps dans une année à l'infirmerie. Donc il y a aussi la fragilité, même en étant très performant, parce qu'on n'est pas performant toute l'année, bon, il y a toujours des blessures, de la fatigue. Donc on fait de l'expérience des limites. Hein. À ce moment-là, on se dit, ben, qu'est-ce que je suis, quoi. Je ne suis pas simplement quelqu'un qui a des performances, je suis une personne, c'est ça, c'est bien. Je trouve ça, ouais.
Donc, Alors j'ai gardé ce terme en anglais parce que bon, je pense que vous voyez un peu de quoi il s'agit. Alors j'ai repris un peu le mot de la métaphore de la source, hein, sur cette hypothèse que la vulnérabilité peut être un chemin pour la créativité. Donc c'est une hypothèse hein, que je mets au milieu de la table. Alors, j'ai entendu ce mot-là chez des Anglais. Je n'ai pas tout compris. Quand je dis je n'ai pas tout compris, je n'ai pas fait le tour de cette notion. Mais c'est quelque chose qui me parle, mais que je ne comprends pas. Et en général, quand c'est comme ça, c'est bon signe pour moi. Mais voilà, je vous le... Hein, donc sur l'idée que... hein, alors je ne vous demande pas que vous me donniez la solution, parce que sinon après, j'aurais plus besoin de réfléchir. Donc hein, c'est pas... Mais voilà, je trouvais que ce terme, que j'ai entendu plusieurs fois, bon, m'a réveillé quelque chose, hein, peut-être dans l'ouverture, dans l'accompagnement des autres, notamment sur cette idée que si on peut permettre à quelqu'un de contacter la rencontre des profondeurs de sa détresse, ça peut être quelque part de rappeler que notre cœur, dans des sens très différents, peut nous permettre de contacter la lumière. Donc si d'ici samedi, hein, vous avez des pistes à me proposer, pas de réponse, mais juste des pistes, hein, pour que cette idée de sursum corda... c'est un appel. On va passer. Parce que sinon, on va passer aussi.
Vous le retrouvez voilà. Sur le site.
Là, c'est pour jouer sur la frustration. Là, on va passer aussi. Là, j'en avais parlé il y a 4 ans, mais on en reparlera à l'occasion. Mais on va peut-être s'arrêter, parce que sinon, la frustration sera trop grande. Alors, en tout cas, la métaphore, tout à l'heure, j'avais utilisé la figure de la source. Hein, là, c'est une autre figure que je vous propose hein, quand la Terre est aride, hein, de considérer que peut-être ce qui permet à la source finalement de ressurgir de cette de ce terrain ardir, aride, c'est voir comment l'idée de pauvreté du cœur, de sursum corda et de prière du cœur peut avoir du sens, et donc de rappeler que le corps humain, c'est pas simplement un corps domestiqué, mais que le corps humain a une nature sauvage et que lorsqu'on propose certaines formes d'activité aux ados ou aux personnes qu'on accompagne, c'est qu'on est amené quelque part à leur permettre de s'ensauvager également dans des cadres qui sont à respecter, et puis de rappeler que le corps, c'est alors j'ai utilisé cette métaphore, hein, peut être considéré comme une cathédrale extravagante d'où transpire le mystère et le sacré et d'où peut résonner la prière du corps. C'est des traductions que j'ai pu faire, hein, que j'ai interprété un peu à ma... Mais c'est des pistes un peu qui, pour moi, dans ma pratique, on va dire, professionnelle, peut être intéressante sur comment, finalement, dans une attitude d'accompagnement alors pédagogique, peut aussi contenir une dimension spirituelle. Sans forcément l'annoncer, hein, mais quelque part associer cette pratique avec... Voilà, on va passer. Ça sera sur le site, hein, c'est promis. Alors, ça, je ne l'ai pas traduit. Alors, ça, c'est deux fleurs qui ont éclos dans mon jardin récemment. Hein. C'est d'une manière un petit peu de... Hein, donc, ça reprend l'idée que d'accepter que, finalement, notre monde intérieur est aussi un monde fragile, en sachant que fragilité, ici, n'est pas à considérer comme quelque chose de négatif, mais peut-être... Hein, comme quelque chose d'optimiste, et donc de considérer que l'expérience de la vulnérabilité ou de la fragilité peut ouvrir les portes à un nouvel espoir ou une nouvelle espérance. Alors c'est un peu l'idée du well-flourishing, c'est-à-dire l'efflorescence, on va dire, de la dimension sacrée de la personne. Et sustainable, ça reprend un petit peu l'idée de quelque chose qui... il y a une dimension qui nous dépasse, qui nous soutient là-dedans. C'est-à-dire, même si c'est difficile, même si ça nous fait peur, il y a quelque part un soutien qui nous est, hein, qui nous est proposé. Et puis le 22, ça sera... Donc ça sera quand, samedi ? Alors, petit clin d'œil hein, du côté de l'UNESCO, hein, de rappeler que le 22 avril, c'est la journée internationale de la Terre-Mère. Alors, je voulais terminer là-dessus parce qu'on a été amené aussi à aborder ce lien qui peut exister entre les notions d'écologie, notions de développement durable, et aussi de rappeler que peut-être le corps est peut-être aussi un élément qui est à prendre en compte, et que l'écologie corporelle ou le développement humain durable a peut-être une valeur inestimable à prendre en compte, et que la notion d'écologie est peut-être pas très éloignée de nos, hein, de nos préoccupations. Donc la Terre-Mère, c'est pas n'importe quel langage, hein, ça touche d'autres cultures, mais de considérer que cette Terre-Mère, ben, c'est une terre qui peut être aride, c'est une terre qui peut être des fois foisonnante d'eau. Hein, on en a parlé à table. Hein, là, il fait effectivement, on est heureux que le soleil soit là, qu'il fasse froid, etc. Mais la pluie hein, fait aussi partie de... Voilà, donc pour conclure un petit peu, on a eu plusieurs interventions voilà, sur cette association qui, moi, me paraissait pleine d'espérance et de promesses. C'est comment la notion d'écologie peut aussi nous intéresser hein, par rapport à nos préoccupations.
Alors sur cette.
Alors en fait, moi, j'interviens à l'ILEPS, qui est une école associée à l'Institut catholique de Paris. Et depuis 4 ans, donc, je développe, et donc, notamment avec Célestin McKenzie et d'autres Torrent, des thématiques autour de corps, psychologie, spiritualité. C'est-à-dire comment, dans différentes pratiques culturelles, ces trois notions peuvent être. Affirmé.
Et Pascal, tu nous as parlé de Murcia comme une université avec une grande tradition sur le sport, sur la relation sport à quoi ? Pourquoi ?
C'est aussi le pôle d'enseignement et de réflexion. Donc ils sont très axés sur ces sujets-là. Donc c'est aussi. Alors le détail.
Alors au niveau sport, puisqu'on est en convention aussi entre Cato de Paris, Cato de Murcia, donc il y a une école de sciences du sport avec les activités fondamentales, activités physiques adaptées, professorat, management du sport, et puis il y a la dimension histoire du sport qui est fort développée. Mais dans chaque domaine, il y a la dimension spiritualité qui est mise en avant. Hein, c'est-à-dire que dans la chaire d'histoire, la notion de spiritualité est l'un des. Alors, ce qui fait qu'il y a des liens assez forts avec l'Institut catholique de Paris, puisque la Cato de Paris donc, s'intéresse au thème du bien commun. Hein, et donc, voilà, il y a des échanges qui sont.